This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مابونا هادو جلوبال.
From CNN Radio 7.
راديو داشا.
O Brasil quer se vingar.
Turquia fotora. Slava Russia.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde, aujourd'hui dans les Pouilles, en Italie, la production d'huile d'olive y est menacée. Éric Valmire nous expliquera pourquoi dans Partout ailleurs. Reportage de Solène Lehen en Roumanie, pénurie de médecins, ils rejoignent d'autres pays d'Europe en espérant mieux gagner leur vie. À 18h55, c'est l'édito d'Alain Frachon sur Tony Blair, en train d'être discrètement exfiltré du Quartet, ce groupe ayant vocation à faciliter la paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais tout de suite, un nouveau point sur l'épidémie d'Ebola.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
C'était il y a pile un an que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, décrétait le début officiel, entre guillemets, de l'épidémie d'Ebola. Un an après, la date continue à susciter la polémique pour une raison très simple. Les ONG qui se sont retrouvées en première ligne pour lutter contre la maladie pointent un dramatique retard de l'OMS qui aurait pu ou dû sonner l'alarme plus tôt. On va revenir sur cet aspect du problème après avoir établi la cartographie de l'épidémie en Afrique. Aujourd'hui, un an plus tard. Au micro de France Inter, Jean-François Delfraissy, que je salue. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Coordinateur pour la France dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et Marie Jaspard, que je salue également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue. Vous étiez responsable il y a 6 mois pour Médecins Sans Frontières du centre de traitement Ebola de Conakry en Guinée. Où en est-on de l'épidémie, Marie Jaspard, aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, peut-être que M. Defrézy pourra corriger éventuellement. C'est clairement en recul, mais c'est absolument pas fini. En Guinée, au Sierra Leone, il y a toujours des cas qui sont déclarés régulièrement. Il y a eu un espoir pour le Liberia qui était déclaré zone free depuis 21 jours et il y a un nouveau cas il y a quelques jours, me semble-t-il. C'est pas tellement surprenant, en tout cas à mon sens. Hein, ça va pas disparaître comme ça, ça prend du temps. Il y a une vraie avancer dans la prise en charge. La preuve, c'est qu'il y a de moins en moins de cas. Mais il ne faut pas, baisser la garde.
MSF a été en pointe, reste, j'imagine, en pointe. Est-ce que vous êtes toujours soumis à la même pression qu'il y a quelques mois ou est-ce que vous voyez tout de même la charge s'alléger un peu sur vos épaules ?
Je pense que la charge s'allège un petit peu. Je répète, moi j'étais il y a 6 mois, hein, donc c'est difficile. Mais mes collègues avec qui je suis encore en contact me disent qu'effectivement la charge s'allège. Le problème, c'est que ça fait un an, donc on est aussi un petit peu à bout de souffle, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de ressources humaines disponibles pour partir. Il y avait déjà des difficultés il y a un an, mais là, avec le temps qui passe, c'est encore plus compliqué de trouver des gens. Alors il y a moins de patients, c'est vrai, on a une meilleure expertise, et je pense que ça, c'est plutôt des bonnes choses, mais c'est toujours pas tellement simple de prendre en charge des patients dans ce contexte-là où il y a des difficultés relationnelles avec les populations aussi, donc ça aide pas sur la prise en charge.
Jean-François Delfraissy, l'épidémie a donc reculé, elle reste, je ne sais pas si le mot est bon, encore virulente, entre guillemets, elle peut flamber à nouveau ?
Oui, pour les deux pays qui sont les plus touchés, la Guinée et la Sierra Leone, ce qui est frappant, c'est que ça touche les zones urbaines maintenant. Par exemple, en Guinée, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Les zones forestières de Guinée forestière qui ont été le début de l'épidémie, hein, c'est cette zone où il y a 4 frontières qui se touchent beaucoup, il n'y a pratiquement plus de cas. Hein, et on est presque sur le point d'avoir gagné sur Ebola dans cette zone forestière. Et inversement, sur Conakry, le Grand Conakry, la zone qui est en dessous de Conakry, qui fait la jonction avec la Sierra Leone, l'épidémie n'est pas contrôlée. On est en zone urbaine, c'est là où il y a le plus de zones de poche de résistance de la population. Résistance à la prise en charge sur Ebola, résistance aux politiques en général, aux politiques de santé en particulier. C'est là où ça devient compliqué.
Comment on l'explique ? Parce que ça pourrait sembler contre-intuitif qu'en milieu urbain, les résistances soient plus fortes. Parce qu'on imagine peut-être que les canaux d'information sont plus efficaces.
Alors c'est ce qu'on pensait, et puis la réalité n'est pas cela. Par exemple, on est frappé du fait que les systèmes de santé ou les hôpitaux, par exemple, il vient d'y avoir la découverte d'un cas d'Ebola dans un grand hôpital de Conakry la semaine dernière, et il a passé toutes les barrières. C'est-à-dire que toute la formation qui a été faite sur quelqu'un qui a de la fièvre, a priori c'est un Ebola, eh bien, un an plus tard, on s'aperçoit que ça peut passer à côté. Bon. Et donc,
pas de confinement,
pas d'isolement, voilà. Donc de nouveau, un facteur de contamination. Enfin bon, c'est... Après, sur les zones urbaines, vous savez que Ebola est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu médical, c'est un enjeu politique aussi maintenant, malheureusement. Et qu'on est rentré dans une période un peu complexe en Guinée, et qu'il y a des zones de résistance qui existent, qui ont toujours existé, résistance culturelle, résistance à tout principe d'autorité, et que c'est en train de sortir dans cette région de Conakry. Alors, si on est un tout petit peu plus optimiste, on peut dire que les cas qui sortent à Conakry on est en train de les faire sortir. Bon, et en les faisant sortir, on peut imaginer que la chaîne soit mieux maîtrisée. Néanmoins, je crois qu'il faut rester
quand même objectif, une prudence extrême à vous entendre.
Pour moi, Ebola va mieux, Ebola n'est pas guéri. Pour faire simple.
Marie Jaspard, vous les avez rencontrés en milieu urbain, ces résistances, quand vous étiez sur place ?
Oui, tout à fait. Alors ça c'est évident. Nous, on fonctionnait à Conakry, donc on avait un centre de traitement dans Conakry, dans l'hôpital de Donka, et on recevait des gens de Conakry, mais surtout du grand Conakry, comme on dit, hein, donc de villages qui sont plus reculés. On avait vraiment du mal à aller dans ces villages-là, et quand on allait dans les villages, on n'était pas toujours bien accueillis. Pas systématiquement en tout cas. Et puis, on trouvait des épidémies de grande ampleur dans le village en question. C'est-à-dire qu'on allait pour voir deux patients. En fait, il y avait toute une famille avec 25 ou 30 personnes qui étaient malades. On ramenait tout le monde. Dans ces cas-là, on les prend en charge très tard. Et du coup, la mortalité est très élevée. Ce qui est dommage, parce que finalement, quand on prend en charge tôt, la mortalité est beaucoup, beaucoup plus basse. Donc ça, c'est la difficulté. Et les gens dans les villages ne voulaient pas venir. Souvent, c'était compliqué de les faire monter dans la voiture pour les prendre en charge. Donc ça, cette résistance, on l'a clairement constaté. Et au moment où j'y étais, il y a eu une attaque. Alors, c'était en Guinée forestière à l'époque, hein, mais de personnel de santé qui faisait la sensibilisation et qui ont été littéralement découpés à la machette. Donc oui, cette résistance, on l'a sentie tout le temps, en milieu urbain et ailleurs aussi. Ça, il n'y a pas de doute.
Et donc la culture générale, entre guillemets, sur la maladie n'a pas progressé ces derniers mois auprès des populations locales. Le travail qui consiste à faire de la prévention, de l'alerte, à donner les protocoles, etc., etc., ça n'a pas été substantiellement modifié.
Je pense que ça a progressé. Hein. Je pense que ça a progressé. Après, il y a du travail encore à faire. Il faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Et ça, je pense que c'est un travail et qui va devoir durer un moment avant de juguler l'épidémie. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a un travail aussi de redonner confiance aux gens qui sont donc malades, mais peut-être pour d'autres choses que l'Ebola, qui vont plus du tout à l'hôpital. Alors, il y a vraiment un double travail de sensibilisation à faire sur le point de vue sanitaire en Guinée et au Sierra Leone, sûrement la même chose aussi.
Alors, Jean-François Delfrécy le disait. Bonsoir, Dominique André.
Bonsoir, Nicolas.
Il y a une dimension politique dans cette épidémie d'Ebola. Vous avez rencontré Sidia Touré. C'est l'une des figures de l'opposition en Guinée-Conakry, d'où est partie l'épidémie. Il était à Paris ces derniers jours. Vous l'avez interrogé sur Ebola dans son pays. Résultat mitigé en Guinée.
Oui, alors la situation, effectivement, même sur le plan politique, n'est pas simple du tout. On se souvient que François Hollande était passé l'hiver dernier en Guinée-Conakry, ancienne colonie française, pour soutenir les Guinéens en première ligne dans le combat contre Ebola. Mais l'Union des Forces Républicaines, qui est le deuxième parti d'opposition en Guinée-Conakry, dénonce la gestion de cette crise sanitaire par les autorités. Et Sidia Touré, qui sera l'un des adversaires du président Alpha Condé à l'élection présidentielle en octobre prochain, estime que le chef de l'État n'a pas fait tout ce qu'il fallait dans cette lutte. Et il met notamment en avant le fait que la Guinée-Conakry ne soit pas sortie totalement de cette épidémie.
Nous avons des résultats extrêmement mitigés. Vous savez que le Libéria déclare actuellement un seul dernier cas qu'ils sont en train de traiter. En Sierra Leone, les choses sont beaucoup maîtrisées. Malheureusement, la Guinée, qui a eu le cas zéro d'Ebola en décembre 2013, n'en a pas fini parce que nous avons encore des cas déclarés pratiquement tous les jours. Ce qui caractérise ce gouvernement, c'est vraiment la malgouvernance à tout point de vue. Et quand un pays n'est pas capable, avec un régime pareil depuis 5 ans, de gérer des problèmes élémentaires comme l'eau, l'électricité, quand il y a une crise sanitaire de cette ampleur, il n'y a pas d'organisation gouvernementale en place qui arrive à obtenir des résultats. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Alors pourquoi, Dominique, ces résultats mitigés ? Faillite de l'État, hein, dit cet opposant. Il faut bien rappeler que c'est un opposant politique qui s'exprime là.
Oui,
hein.
Et nous sommes également dans une année électorale avec deux échéances fortes. Enfin, la présidentielle et les municipales dans la foulée. Alors lui, il explique que les autorités ne font pas le nécessaire, notamment au niveau local, parce qu'il y a encore effectivement des inhumations non sécurisées qui sont rapportées dans des zones reculées, notamment dans l'ouest du pays. Et ça, c'est extrêmement dangereux, mais les médecins expliqueront peut-être pourquoi. Il y a des résistances et la loi n'est pas respectée. Alors, en Guinée-Conakry, il n'y a pas eu d'élection municipale depuis 2005 et ce sont des fonctionnaires nommés par Alpha Condé qui dirigent les communes. C'est un point de tension très fort entre le pouvoir et l'opposition de Sidya Touré.
L'épidémie n'est pas jugulée, mais nous avons dit que c'est cantonné dans des zones bien précises aujourd'hui. Cela est dans la mesure où le gouvernement n'a pas été capable de mettre en place les structures nécessaires pour coordonner la lutte contre la maladie, comme cela a été fait par exemple à Sierra Leone ou au Libéria. Nous savons exactement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et ces zones-là n'impliquent pas obligatoirement que des élections soient indéfiniment reportées dans la mesure où elles sont connues, simplement mal maîtrisées parce que la gestion n'est pas bien faite.
Et puis Dominique Sidya Touré accuse, il parle de détournement d'aide humanitaire.
Oui, c'est une véritable accusation parce que pour lui, en fait, si vous voulez, Ebola n'est pas responsable de la situation de pauvreté aussi dans laquelle se trouve ce pays. Il estime qu'il y a une mauvaise gestion de la politique du pays et il parle même, vous l'entendrez, d'Ebola business. Alors le 15 février dernier, les chefs d'État de Guinée-Conakry, de Sierra Leone et du Libéria se sont engagés à éradiquer Ebola d'ici le 15 avril. Pour réaliser cet objectif, ils ont demandé donc le soutien international. La Banque mondiale a dégagé un financement $1 milliard pour les pays les plus éprouvés. Et c'est cette aide internationale qui serait détournée ou en tout cas mal utilisée, dénonce Sidya Touré.
L'argent arrive, mais surtout beaucoup de véhicules, mais qui sont utilisés à d'autres fins qu'à des fins d'Ebola. Malheureusement, oui, nous avons beaucoup de préoccupations et j'estime que pour contenir cette maladie dans la sous-région ouest africaine, la communauté internationale devrait beaucoup plus s'intéresser à la gestion d'Ebola en Guinée et qu'on n'en fasse pas un sujet politique. Chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on vous dit c'est Ebola. Ebola n'est pas la cause de tout en Guinée. C'était déjà un pays en péril avant cette maladie. La preuve à Conakry, on parle d'Ebola business. Donc il y a des gens qui construisent des maisons, qui détournent des véhicules. C'est assez dramatique, mais c'est cela la triste réalité.
Voilà, donc on a compris que la situation n'était pas simple non plus sur le plan politique. Et d'ailleurs, l'opposition reproche et accuse même le président Alpha Condé de vouloir reculer le calendrier des échéances locales, qui est un calendrier important pour la Guinée-Conakry, de vouloir profiter de cette épidémie Ebola pour finalement retarder les élections. Et l'opposition, tous les chefs de l'opposition de Guinée-Conakry appellent à manifester ensemble. Donc des semaines difficiles qui s'annoncent également dans ce pays sur le plan intérieur.
Alors on va demander à nos invités comment ils reçoivent cette parole d'opposition. Je le redis, Jean-François Delfraissy, le paysage qui est fait non pas du côté de l'État mais du côté de ceux qui veulent y parvenir ou y accéder. Quel commentaire ?
Non, moi j'ai envie de dire tant du côté gouvernemental que du côté de l'opposition, faites une pause, hein. Faites une pause, ne politisez pas Ebola. Enfin, c'est ce qu'ils ont à peu près réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est vrai que là, on rentre dans une phase un peu plus compliquée. C'est pas seulement le problème de la Guinée. La Sierra Leone est dans une situation aussi assez complexe, hein. Le Libéria, pour différentes raisons, et encore d'ailleurs, on ne sait même pas si finalement le Libéria a gagné, hein. Mais disons, est un petit peu mieux que les autres. Mais il y a deux pays qui restent dans une situation complexe. Donc on a envie de dire aux responsables politiques ou à ceux qui veulent devenir, eh bien, soyez responsables, comme d'ailleurs on a envie de le dire de temps en temps à nos politiques en France. Soyez responsables devant un problème de sanitaire
qui
majeur.
Dépasse les clivages.
Qui dépasse les clivages. On passe à autre chose.
Ebola business, ça vous a choqué ou pas ? Ça vous dit quelque chose ? Vous avez vu ça sur le terrain ? On en parle ? Marie Jaspard, Jean-François Delfraissy ?
Moi, je réagis à chaud. Vous savez, sur l'Ebola business, j'ai entendu aussi Sida business il y a 20 ans. Quand on met finalement des investissements relativement importants pour résoudre des problèmes sanitaires, il y a toujours ce risque. Et il existe, hein. C'est pas la peine de se leurrer, il existe.
Mais la réalité existe ou le risque existe ?
Le risque existe, la réalité après. Les financements on en parle énormément, ils sont seulement en train d'arriver depuis le mois de janvier. MSF a crié au secours dans des conditions difficiles. Il y a eu des investissements. Le temps qu'ils soient décidés et qu'ils arrivent, c'est qu'ils soient décaissés, qu'ils arrivent sur la Guinée, qu'ils arrivent sur le ground, sur la Guinée. Moi, je vois bien le temps qu'il a fallu pour que la France, alors qu'on sait vraiment, la France s'est investie beaucoup, peut-être un peu tard, mais elle s'est investie. Et je vois bien le temps qu'il a fallu pour mettre les CTE. On a été prêts finalement uniquement à partir de début décembre. Enfin, donc, les investissements sont arrivés avec un décalage. Bon. Donc, que le business arrive, il n'y avait pas jusqu'à maintenant tellement de quoi faire du business. Il y avait surtout à résoudre des problèmes sanitaires.
Marie Jaspard, comment prenez-vous ce regard très critique qui était porté par Sidia Touré?
Moi, je pense qu'il y a déjà eu un retard à la prise en charge initiale. Depuis le début, on court après l'épidémie, que ce soit dans ces trois pays, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'il y ait un problème politique initialement, c'est un problème général, aussi lié au retard de l'OMS, et puis à l'impact économique que peut avoir cette maladie sur ces trois pays. Donc ça, je pense que le retard est de toute façon déjà en place, et donc c'est compliqué de récupérer les choses. Par ailleurs, sur l'Ebola business, alors je ne sais pas, moi je travaillais pour MSF, et alors j'ai absolument pas ressenti ça, mais plutôt exactement l'inverse, que alors MSF, on contrôlait pas mal nos fonds, notre manière de dépenser notre argent et d'apporter des soins aux patients, c'était quelque chose d'assez cadré. Ce qui est sûr, c'est que les équipes médicales guinéennes avec lesquelles j'ai travaillé, ils n'étaient pas là pour chercher du business. Ils n'étaient pas là pour chercher de la notoriété ou quoi. Au contraire, ils ne voulaient pas dire qu'ils travaillaient dans le centre de traitement Ebola. S'ils le disaient, leur famille ne voulait plus leur parler ou les laisser loger chez eux. Donc moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. J'ai ressenti des gens motivés pour damer le fion à Ebola, excusez-moi pour l'expression, mais absolument pas un truc de profit ou quel qu'il soit. C'est vraiment pas du tout ce que j'ai ressenti, mais...
Il y a une polémique, je le disais, et vous l'avez à peine suggéré à l'instant, Jean-François Delfraissy, sur la date officielle de début de l'épidémie. On reproche précisément à l'OMS d'être intervenu trop tard et d'avoir dit, c'était il y a un an, voilà, bing, nous sommes face à une épidémie extrêmement importante, alors que MSF alertait sur le terrain en disant la situation est hors de contrôle. Que pensez-vous du rôle des défaillances éventuelles de l'OMS dans ce cas précis?
Moi, je crois qu'il n'y a pas de polémique. Il y a des faits. C'est une réalité. Il y a une épidémie qui a finalement le point de départ, on le sait, c'est décembre 2013. Puis ensuite, qui se pense vraiment dans le premier trimestre 2014. Un virus Ebola qui est isolé en tant que tel par les équipes de Lyon, du P4 de Lyon, qui est isolé fin mars, c'est-à-dire il y a pile un an. Et puis ensuite, donc on savait que c'était Ebola. On pensait que l'épidémie allait se faire comme les 20 précédentes petites épidémies d'Ebola qui étaient différentes. Et MSF qui disait non, on est dépassé.
C'est ça, quelque chose de nouveau, là.
Il y a complètement différent. Donc c'est clair, il n'y a pas de polémique, il y a un fait. Il y a eu deux retards, un retard important, un retard de la part de l'OMS, mais pas seulement de l'OMS, d'un certain nombre d'autres grandes institutions, qui peut se situer entre, je dirais, le mois de mars et... le début août. Voilà. Bon, et après, les machines se sont mises en route à partir de début août. Moi, je l'ai bien vu aussi, d'ailleurs, en France, sur les aspects recherche. Et puis, après, il y a eu un temps d'activité et d'activation de tous ces systèmes durant l'automne. Donc, il n'y a pas de polémique. Il y a un fait. Il y a eu un retard sur le concept même qu'on avait affaire à une épidémie extraordinaire.
Et puis, il y a une colère, à MSF. Il y a un rapport qui a été remis aujourd'hui, Marie Jaspard. C'est MSF qui a fait le boulot. Et là, j'ai sous les yeux la phrase du directeur général de MSF. L'OMS aurait dû combattre le virus, pas MSF. Ce qui dit bien les choses. Vous avez eu le sentiment, j'imagine, d'être en toute première ligne et les plus actifs au combat.
Alors moi, je suis arrivée après. Moi, je suis allée à Conakry en octobre. Donc, je suis arrivée quand il y avait déjà du monde qui commençait à arriver. Mais effectivement, je crois qu'il y a eu un vrai sentiment de solitude chez les travailleurs MSF au mois de mai, juin, juillet, où ça a commencé vraiment à chauffer. Et là, je crois qu'ils se sont sentis particulièrement seuls. MSF est là pour ça, pour secouer les choses. C'est chacun son rôle dans cette histoire. Et MSF est vraiment là pour activer les choses, pour critiquer, pour... Donc, je pense que c'est bien de le faire. C'est bien aussi d'avoir la réaction de l'OMS maintenant posée et plus calme. Je pense qu'il faut vraiment de tout. Et effectivement, mais dans l'ensemble, je pense qu'MSF s'est senti particulièrement seul et démuni. Et en même temps, c'est notre boulot hein, chez MSF de partir rapidement, d'aller sur le terrain rapidement, d'être actif en une semaine. On a des stocks prêts exprès à Bordeaux pour partir avec tout le matériel. C'est notre job. Hein, donc,
Mais vous avez souffert quand même?
Alors, je vous dis, moi, j'étais pas à ce moment-là. Donc, quand j'y étais, il commençait à y avoir plus de monde. Après, oui, sur un centre de traitement Ebola, quand on y est en tant que volontaire MSF, c'est pas pour une partie de plaisir. Hein. C'est difficile, c'est long, c'est fatigant. Il y a énormément de patients, énormément de pression. Après, je le répète, c'est notre job. Et en tant que médecin, c'est vraiment ce qu'on aime faire. Et on aime y aller pour ça. Et on continuera à y aller pour ça.
Mais donc, ce qui est assez étonnant, Jean-François Delfrécy, c'est que MSF, dans ce rapport, fait son autocritique, mais fait son propre retour d'expérience en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a bien fait, voilà ce qu'on a mieux fait, voilà ce qu'on aurait dû faire, voilà où on n'était pas bon du tout. C'est-à-dire que l'ONG qui était là en première ligne se regarde dans le miroir. D'une honnêteté.
Moi aussi, je trouve ça
digne d'être salué en plus du courage des équipes sur place.
Je trouve ça très bien. Il y a eu un rôle des MSF majeur qu'on reconnaît tous. Après, il faut vraiment tirer les leçons. C'est-à-dire que dans la discussion qu'il y a en ce moment sur finalement la réponse à des grandes crises sanitaires, où l'EMS s'interroge elle-même hein, sur pourquoi on a failli, qu'est-ce qui s'est passé, il y a une discussion sur faire un corps un peu de réponse urgente. Moi, je dis attention. Au contraire, je pense qu'il faut laisser les ONG de type MSF justement faire le job, comme vous le dites si bien, hein, parce que s'il y a une réactivité qu'il n'y aura jamais dans une grande institution internationale. Ce qu'on demande par contre ensuite à l'OMS, c'est de très vite accompagner un premier départ qui a été réalisé par les ONG. MSF et d'autres, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu que MSF. Hein. Il y a Alima, il y a Wafa, il y a la Croix-Rouge française, en ce qui concerne la Guinée, qui se sont beaucoup mouillés aussi. Hein. Après, dans un deuxième temps, donc il n'y a pas que MSF. Alors après, sur la critique, bon, c'est typiquement MSF, ça. C'est de se dire, on a fait des choses, et puis il y a des choses qu'on a moins bien fait, et la partie où elle se critique un tout petit peu, de ce que j'ai lu, c'est justement sur la partie prise en charge médicale. Hein. C'est de se dire, on a répondu à l'urgence, à une urgence extrême, et puis on a essayé de faire ce qu'on pouvait ou ce qu'on croyait devoir faire. Et finalement, on sait que le traitement d'Ebola, enfin, mais ce qui n'est pas si simple, hein, c'est qu'il y a des déperditions majeures de liquidienne et que, somme toute, un peu plus de médicalisation au départ aurait probablement permis d'être mieux. Mais moi, je ne les critique pas du tout. Ils ont fait comme ils pouvaient. Hein.
C'est eux qui formulent leur propre critique.
Oui, justement, comme j'ai le regard extérieur.
Et Marie voilà, Jaspard disait oui voilà, de la tête. Voilà, effectivement, voilà. Vous partagez les critiques que MSF formule sur l'action d'MSF, j'imagine.
Ah oui, non, mais c'est des critiques qu'on a nous-mêmes fait hein, sur le terrain. Hein, donc, c'est pas du tout une nouveauté. Après, c'est sûr qu'en y allant, on était tous assez inexpérimentés. Moi, je suis allée, c'est ma première mission Ebola. J'avais fait plusieurs missions pour MSF, mais c'est la première Ebola. Je connaissais rien à Ebola. C'est même pas dans les chapitres de médecine. Quoi. Donc, c'était vraiment la découverte. Et en allant sur place, on s'est vraiment rendu compte que ça se traitait relativement facilement. Je mets beaucoup de guillemets dans ma phrase parce qu'en fait, c'est une déshydratation majeure, Ebola. Et donc ça, n'importe quel médecin, même le plus idiot du monde, est capable de traiter une déshydratation. Il faut perfuser, hydrater et apporter des ions. Enfin, c'est un peu technique, mais tout le monde sait faire ça. Et en fait, c'est vrai qu'avec une prudence pour ne pas contaminer les équipes, on a probablement fait un petit peu moins que ça parce qu'on ne voulait vraiment pas mettre nos équipes en danger, les expatriés, les staffs nationaux, tout le monde. On ne voulait mettre personne en danger. Donc, on a probablement reculé un peu dans la qualité des soins, probablement un petit peu trop aussi. Et après, c'est aussi, comme je le disais, MSF fait ça. Ils se critiquent, ils s'autocritiquent, ils se critiquent les uns les autres et puis ils avancent tout ça ensemble, en fait.
C'est comme ça que la science avance, hein, de toute façon. Une dernière question très rapide. Malheureusement, on n'a plus le temps. Où en sont les recherches sur les traitements? Beaucoup de choses ont été expérimentées ces 12 derniers mois. Est-ce qu'on a une direction là un peu précise, Jean-François Delfrécy?
Non, d'abord, il n'y a pas énormément de choses qui ont été expérimentées parce qu'il a fallu monter...
J'ai vu plusieurs médicaments, enfin, plusieurs vaccins.
Il y a un premier, alors, on doit distinguer ce qui est médicament pour traiter les patients de ce qui est vaccin pour prévenir, hein, éviter qu'on se contamine. Sur les médicaments, il y a un premier médicament qui a été testé par la France, mais avec MSF, avec la Croix-Rouge française, avec Alima en Guinée, qui s'appelle le favipiravir, qui est un médicament qui est dirigé contre la grippe, médicament d'origine japonaise, et qui n'est pas le médicament miracle, qui n'est pas le magic bullet, mais qui donne un signal, entre guillemets, chez des patients qui ne sont pas trop graves et qui réduit la mortalité de 50% chez les patients qui ne sont pas très graves. Mais c'est la mortalité. Hein. Bon. On avait dit d'emblée qu'on souhaitait avoir un premier signal pour immédiatement après combiner deux antiviraux, puisque c'est comme ça qu'on a pu prendre en charge, par exemple, le VIH, prendre en charge les hépatites. L'idée de combinaison de médicaments est quelque chose d'assez logique. Encore que là, ça aille très vite dans Ebola et c'est peut-être un peu plus complexe. Donc, on démarre un deuxième essai en combinaison avec le favipiravir plus un autre médicament. Quant au vaccin, les essais vaccinaux viennent de démarrer sur place, les essais vaccinaux à visée préventive. Il y a un essai qui est mené par l'OMS en Guinée, il y a un essai qui est mené par le NIH au Liberia, qui va peut-être qu'on va prendre en charge aussi avec l'INSERM sur la Guinée. Et puis on devrait avoir des résultats d'efficacité vaccinale. Je dirais les premiers résultats, c'est fin mai, début juin.
Merci à tous les deux. Merci Jean-François Delfraissy, coordinateur pour la France dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Merci et maximum respect à Marie Jaspard, infectiologue qui était responsable Médecins sans frontières du centre de traitement Ebola de Conakry en Guinée. À suivre, il est 18h41 sur Inter, vous écoutez Un jour dans le monde. À suivre donc la Roumanie. Pour l'instant, c'est Balthazar. Then what?
Someone told you there is now well again where out of this then what? And if you're keeping this heart from coming completely apart then what? And if the rich are big and for more on the doorsteps of the poor, then what? Then what is it I've got? Woo-hoo! If someone told you there is the last thing that's keeping this heart from coming completely apart, then what? And if in the warmth and rhythm of your skin I lost everything I could win, then what? Then what is it I've got?
Balthazar, then what? Maintenant quoi? Maintenant la Roumanie.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde. Sur France Inter.
Un jour dans le monde, reportage donc en Roumanie. On parle beaucoup ici en France des médecins roumains embauchés chez nous, dans nos campagnes, pour pallier le manque de praticiens. En Roumanie, c'est le problème inverse qui inquiète les autorités sanitaires, à savoir l'exode des médecins. Il est de plus en plus important, on parle même d'une pénurie désormais de généralistes et de spécialistes. Reportage de Solène Lehen à Cluj, la capitale de la Transylvanie.
Cluj, c'est un très gros centre universitaire, 8000 étudiants à la fac de médecine. Les cours se déroulent dans des bâtiments répartis dans tout un quartier de la ville. On y trouve des amphis, un bloc dernier cri, des salles avec des mannequins pour pratiquer des simulations de soins. Cours également dans les hôpitaux universitaires de la ville, aux murs souvent délabrés et aux moyens parfois rudimentaires. Dans les couloirs, demandez à n'importe quel étudiant en médecine s'il compte rester en Roumanie après ses études. Il vous dira probablement
« I don't know, maybe ».
Ses futurs médecins hésitent. Il faut dire qu'ils voient beaucoup de leurs aînés quitter le pays pour la France, l'Allemagne, l'Italie ou la Grande-Bretagne. La raison principale, en anglais comme en français, la réponse est la même.
The salary is bigger than here. Much money.
C'est l'argent.
L'argent, des salaires plus élevés, c'est ce que confirme le docteur Adriana Albu. Elle a vécu 2 ans en France, à Amiens.
Un médecin spécialiste en Roumanie a un salaire d'environ 500 euros par rapport à la France, donc il y a une différence. 3000, 4000 euros. Mais bon, la vie est moins chère en Roumanie par rapport à la France.
Le nombre de départs est difficile à quantifier, mais au cours des 5 dernières années, 14 000 médecins roumains auraient quitté le pays, dont 4 000 pour la France, accueillis à bras ouverts à l'hôpital ou dans nos déserts médicaux. médicaux. La France notamment parce qu'il y a une proximité linguistique, les termes médicaux sont aussi quasiment les mêmes, et puis parce que la Roumanie est un pays traditionnellement francophile. Ces migrations de médecins créent leur propre économie, des communes, des départements en France paient des cabinets de recrutement à prix d'or pour faire venir des praticiens roumains et leurs familles. Certaines spécialités sont particulièrement prisées en Europe de l'Ouest, comme le confirme le professeur Akimas. Il est l'un des dirigeants de l'université de Cluj, également consultant pour la Commission européenne.
L'anesthésie et la thérapie intensive a été très demandée de France. Alors beaucoup de jeunes gens ont quitté. Il y a des hôpitaux dans des petites villes où il y a déjà un manque de spécialistes.
Oui, c'est la conséquence, un déficit de médecins en Roumanie. Dans l'enquête récente pour l'Observatoire européen de la démographie médicale, l'Ordre des médecins roumains constatait que le pays manque aujourd'hui de généralistes.
De point de vue financier et institutionnel, je ne peux que le déplorer, parce que pour la Roumanie, c'est un très grand effort de les former, et après la France qui est plus riche, d'accueillir des gens directement formés.
Manque à gagner pour la Roumanie et conséquence aussi pour sa propre offre de soins. Mais pour autant, cet exode ne signifie pas forcément une fuite définitive des cerveaux. Parfois, l'adaptation dans les pays d'Europe de l'Ouest se passe mal. Des praticiens qui ne parviennent pas à créer une patientèle ou qui ne parlent pas suffisamment bien la langue du pays d'accueil. Il y a eu ainsi des installations ratées en France et des retours précipités en Roumanie. Et puis, autre cas de figure, venir en Europe de l'Ouest, cela fait aussi souvent partie d'un plan de carrière pour ces médecins, explique le docteur Adriana Albou. Elle-même, à Amiens, était venue se spécialiser dans la dialyse.
Cette migration est liée au salaire, mais elle est liée aussi aux conditions de travail, aux possibilités donc, de se perfectionner. Il y a des collègues qui partent. En général, ils partent pour une courte période de temps. Ça veut dire un an, deux ans, trois ans, et ils reviennent après.
Le but, à leur retour en Roumanie, prendre du galon, évoluer.
Il y a des gens qui ont par exemple leur place à l'université de Cluj, dans un grand hôpital de Cluj ou dans un autre centre universitaire et ils veulent revenir. Donc avec cette expérience professionnelle qu'ils gagnent en France, ils peuvent après travailler ici.
Grimper dans la hiérarchie mais aussi dans les revenus.
Au moment où tu reviens en Roumanie, si tu es un bon spécialiste, tu peux travailler aussi en privé, par exemple, et gagner un peu plus par rapport à ton salaire d'un hôpital public.
Pour le professeur Akimas, à long terme, cette migration des médecins pourrait être aussi un avantage pour le système de santé roumain.
Pour le pays de l'Est de l'Europe, l'européanisation, si vous voulez, c'est un processus absolument nécessaire et très, très bénéfique. C'est la migration des spécialistes dans un monde globalisé. N'importe qui et n'importe où peut faire un stage, des modules, une période de travail. Peut-être que beaucoup d'entre eux quittent et ne reviendront jamais. Peut-être certains d'entre eux reviendront avec une expérience de l'Europe occidentale et qui peut être très bénéfique pour notre système.
Mais cela, c'est une vision à long terme. En attendant, aujourd'hui, la pénurie de médecins se fait sentir dans certaines zones du pays. Et c'est un comble. La Roumanie devient par nécessité une terre d'immigration. Elle doit faire venir des médecins de Moldavie, d'Ukraine, du Maghreb ou encore de Lituanie.
L'excellente Solène Lehen signait ce reportage en Roumanie.
Thanks so much for that report.
Partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Direction les Pouilles, en Italie, il y a péril sur l'huile d'olive.
Terreur dans les Pouilles. Mais je n'aurai jamais la voix d'Alain Frachon. Terreur dans le Salento, le talon de la botte sur la carte, la région au sud de Lecce, un endroit quasi paradisiaque entre Otranto qui s'envole vers la Grèce et Garibaldi qui se tourne vers les couchers de soleil. Une zone méridionale qui ressemble à une île avec son cap Santa Maria delle Ucca. Bref, autant vous dire Nicolas, j'aime cette région. Et sa raison d'être est en train de mourir. L'olivier. Ici, les oliviers sont tellement le centre du monde qu'ils en attrapent la grosse tête. Ils se prennent pour des baobabs. Il n'est pas l'arbre frêle des collines de Toscane et d'Ombrie. Son tronc ressemble à celui d'un chêne et rien ne semblait pouvoir l'abattre. Et voilà qu'un insecte du Costa Rica entraîne sa perte depuis 18 mois. Une probactérie identifiée pour la première fois dans un vignoble californien il y a 150 ans et qui voyage via les insectes sur des distances courtes d'arbre en arbre. Voilà donc les raisons de l'agonie des oliviers salentini. L'arbre se dessèche, du feuillage jusqu'au tronc. Il vit une sorte d'étouffement. Déjà 1 million d'oliviers de la province de Lecce infectés et abattus, et l'épidémie continue de se propager. Un problème d'autant plus crucial que les 2/3 de la production d'huile d'olive italienne part d'ici, et surtout il s'agit d'une région qui vit essentiellement de l'olive. L'olivier fait partie de la famille. Il y a une dévotion qui lui est portée. Et dans chaque village, chacun a sa technique de récolte. La méthode de Morand, étendre des filets au sol, se coucher au soleil et attendre que l'olive tombe. Cette méthode existe réellement. Bon, elle ne s'appelle pas de Morand, certes.
Mais ou alors, je la valide.
Voilà. Ou alors, grimper dans les arbres pour secouer les branches.
Là, j'essaye de secouer un arbre pour qu'elle tombe par terre et qu'on les ramasse.
Avec 2 quintaux d'olive, on fait 32 kilos d'huile. Et après, nous, avec nos mains, on enlève les quelques petites pierres qui traînent.
Après, on les emmène dans ces caisses pour les laver. Les nettoyer. Après, on les passe à la machine pour la mouture.
La molitura.
In effetti si prepara durante tutto l'anno.
Toute l'année, on travaille comme ça.
Viene mio marito e lo
un après-midi de temps en temps, mon mari vient, il travaille le terrain, il l'aplatit. Il le rend opérationnel.
Il ne faut pas qu'il y ait d'herbe. Il ne faut pas que l'olive tombe dans l'herbe. Sinon, on ne la voit plus et la cueillette devient difficile.
C'est parce que notre huile est particulière par rapport aux autres huiles. C'est la meilleure parce que cette qualité d'olive, on la trouve seulement à Lecce. Et c'est tellement vrai qu'on les appelle les leccines, ces petites olives. Je sais. Je sais que tout le monde dit ça, mais si on a l'occasion plus tard, je vais vous la faire goûter. Vous verrez, vous vous en rendrez compte par vous-même.
J'avais envie de vous faire entendre ce reportage réalisé au sud de Lecce il y a 3 ans dans la région qui nous occupe aujourd'hui pour vous montrer le lien qui unit les habitants du Salento à l'olivier. On sent vraiment que c'est quelque chose d'indicible, presque d'inqualifiable. Et donc le véritable choc psychologique que provoque cette épidémie. Surtout que dans les faits, aucune technique n'existe pour éradiquer cette probactérie. La menace est donc sérieuse, il faudrait au mieux la contenir, mais même ça, ce n'est pas simple. Les paysans de la région qui se réunissent régulièrement ne trouvent pas la parade. Il faut se battre pour la défense de la culture de notre olive qui représente la richesse de notre Salento. C'est clair que c'est un dommage économique et pas seulement environnemental. Nous sommes unis à cette superbe plante, c'est pour ça que on est en train de chercher avec les plus grands experts des pistes de travail. Des hypothèses sur lesquelles s'appuyer pour que l'on arrête de voir nos arbres en train de mourir.
Et à Bruxelles, Eric, on prend le sujet très très au sérieux.
Hein. Le commissaire européen à la santé, que vous connaissez bien, Vytenis Andriukaitis, oui, a prôné lundi une vigilance absolue pour empêcher la propagation de la Xylella fastidiosa. C'est la probactérie qui menace aussi les vignes et les agrumes. Alors une fois qu'on a dit vigilance absolue, on n'a pas dit grand-chose. Le comité phytosanitaire permanent de l'Union européenne doit faire le point sur d'éventuelles nouvelles mesures, jeudi et vendredi prochain, dans des réunions d'urgence. La France, l'Espagne, le Portugal réclament un durcissement des règles de prévention, mais la résistance monte en Italie contre la destruction d'oliviers séculaires qui font vraiment partie du patrimoine. Le problème, c'est que sans mesure de confinement et de surveillance, cette probactérie pourrait entraîner des dégâts majeurs dans les cultures insulaires car elle s'attaque à la vigne, à l'olivier, au chêne, à l'orme, aux agrumes, aux amandiers, aux pruniers, aux abricotiers. Elle pourrait être véhiculée par des plants contaminés, notamment les espèces ornementales que l'Italie exporte vers la France, vers la Corse, qui est directement menacée. Et c'est par ce biais que le virus avait déjà traversé l'Atlantique, affectant de plein fouet les oliviers des Pouilles.
Éric Valmire, immense amoureux de l'Italie. Merci.
Un jour dans le monde.
Alors, on va commencer la négociation.
Alors ça, on va y venir, mais
on va reprendre la négociation.
Mais ce n'est pas encore fini.
Sur France Inter.
Il est 18h55, c'est l'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
On cherche activement un remplaçant à Tony Blair au sein du fameux quartet pour le Moyen-Orient.
Si vous ignorez tout de cette affaire, vous êtes pardonnés à l'avance. Personne ne sait ce que c'est que le quartet, et encore moins qu'il a un envoyé spécial pour la paix au Proche-Orient. Le quartet a été créé en 2001. Il regroupe les États-Unis, la Russie, l'ONU et l'Union européenne. Il est chargé de faire aboutir une éventuelle négociation entre Israéliens et Palestiniens. On ose dire que le bilan du quartet est faible pour la bonne raison que le dit bilan est nul, inexistant, l'équivalent politique du néant philosophique ou du vide des physiciens. En 2007, après trois mandats, couronnés de succès économiques, Tony Blair, chef du New Labour, quitte le gouvernement et la politique. Alors pour le remercier d'avoir été son partenaire actif dans le désastre irakien, le président George Bush fait nommer M. Blair envoyé spécial du fameux quartet. L'ancien Premier ministre doit promouvoir la paix par le développement économique des territoires palestiniens. Il y a eu un tout petit peu de développement, mais pas du tout de paix. La mission de M. Blair, non rémunérée, n'a servi à rien ou presque. Les Palestiniens n'ont pas apprécié la nomination d'un homme qui a été l'un des responsables du démantèlement de l'Irak. M. Blair n'a consacré à sa fonction que trois jours par mois. Le reste du temps, il a développé de lucratives activités à la tête de sa société de consultants, Tony Blair Associé. Comme il opère beaucoup dans le monde arabe, on l'a soupçonné de mélanger un peu les casquettes, celle d'envoyé spécial du quartet et celle de businessman dans la région. Le quartet, donc, vous l'avez dit, cherche un nouvel envoyé spécial. Il veut remplacer M. Blair. En un sens, c'est dommage. Parrain de la paix en Irlande du Nord, on l'a oublié. Blair a montré qu'il avait une réelle et impressionnante capacité de négociateur. C'est un animal politique étrange, un mélange de talent et de désinvolture, d'ouverture et d'aveuglement. À Jérusalem, comme à Ramallah, il a trop compté sur son charisme ou son aisance. Il aurait dû tirer les leçons de sa bourde historique en Irak, à savoir qu'il n'est pas doué pour le Moyen-Orient. Il n'a compris ni les Israéliens, ni les Palestiniens, parce qu'il n'a pas pris le temps de perdre du temps avec eux. Il avait la capacité d'influence, la capacité de pression politique. Il avait la stature pour taper du poing sur la table, prendre des risques et se mettre en colère. Il ne l'a pas fait. Comme le chantait si bien le regretté Alain Bachung, à la pétante comme ailleurs, si tu n'as pas les boules, à quoi ça sert d'avoir le cochonnet ?
Mais excusez-moi, merci Alain Frachon. Le journal sur France Inter dans deux minutes.